avez reconnu sur les ondes de Radio Galère, on est toujours là le mardi de 15h à 16h pour les carnets hebdomadaires de Comaguerre. Donc bonjour aux amis, aux fidèles de Radio Galère, de Comaguerre, et bonjour à Louise qui très gentiment assure la technique aujourd'hui en remplacement de Roselyne qui est coincée par ailleurs. Bonjour à Bib aussi.
Bonjour.
Alors, on va faire un petit tour, on va passer par l'actualité française, puisqu'après ce 1er mai que je considère comme réussi, qui était donc à l'appel de la plateforme syndicale et puis de beaucoup d'autres, puisque c'était l'occasion de réunir plus large avec des représentations politiques, associatives diverses et variées, avec des grosses manifestations un peu partout. Tout ça sur fond de, alors bien sûr, toujours les retraites, et puis le sentiment qu'on a à travers l'expression publique à travers ces manifestations, c'est qu'on est en train, on est rentré, pour moi, dans l'après-Macron. C'est-à-dire que ce qui est massif aujourd'hui dans l'opinion, et encore plus dans les manifestations de rue, c'est que ce président, ce gouvernement, sont à bout de bord, ne savent plus trop quoi faire, n'ont plus la confiance du pays, ça on le savait déjà, mais l'ont de moins en moins, et sont en train de tourner en rond pour savoir ce qu'ils vont faire. Alors il reste formellement, au moins laissons-lui cet espoir, 4 ans à Macron à l'Élysée, mais en fait, ils doivent se poser la question de savoir comment ils vont occuper ces 4 ans et comment cette espèce de frénésie réformatrice qui a caractérisé le premier quinquennat et qui ne s'est pas très très bien passé quand même, puisque ça laisse... Alors, bien sûr, la réélection, mais c'est voir la situation de la France à travers un œil très très égoïste d'une seule personne. La France aujourd'hui n'est pas en bon état. C'est ça qu'il faut voir. N'est pas en bon état économique, n'est pas en bon état au terme de l'endettement, n'est pas en bon état en termes de ses capacités industrielles qui diminuent, n'est pas en bon état en termes de son autonomie de politique générale et étrangère par rapport à l'OTAN, l'Union européenne et tout. Bon, donc on a donc un pays en mauvaise santé. Alors, j'allais dire, rassurez-vous, il y a pire en Europe. Je pense aux Italiens, je pense à quelques autres. Mais la France, grande puissance, n'est plus en position de grande puissance. Et c'est là-dessus que Macron cherche une issue. Alors, pour l'instant, dans des cas semblables, c'est un vrai classique dans la Ve République. Quand on ne sait plus de quoi on va parler, on parle de l'immigration. Ça, c'est un vieux classique, c'est-à-dire... On dégage sur un sujet qui agite l'opinion, sur lequel on vient et on revient à force de loi. Tous les 4-5 ans, la République se forme d'une nouvelle loi sur l'immigration pour rien changer. Il s'agit surtout de laisser le projecteur braqué sur cette question-là pour qu'une partie des citoyens français ne voient pas le reste. C'est ça l'usage de la politique migratoire, de ces textes, de ces allers-revenus, de toutes ces mesures que vous connaissez et qu'on connaît très bien. C'est très, très révélateur des états de crise politique. C'est-à-dire quand un gouvernement de la République ne sait plus quelles mesures progressistes avancer, il va parler de l'immigration.
Parce que là, ouais, c'était utile pour le Front National.
Voilà. Et puis c'est un facteur de division de l'opinion. Ça permet effectivement à certains partis de récolter des voix, alors que sur leur politique, il n'y a rien à dire d'intéressant. Leur politique, la politique économique et sociale du Front National, c'est exactement la même que celle de Macron. Donc il n'y a rien à en attendre au niveau d'une alternance politique. Mais là, on leur remet leur thématique qui est la vieille, puisque la thématique du Front National là-dessus, elle date en gros, pas de la résurrection du Front National, mais de la montée en puissance du Front National, orchestrée, c'est reconnu, ça n'a jamais été contesté par François Mitterrand à partir de 1984, parce que l'extrême droite, avant 81, avant Mitterrand, à Marseille en particulier, puisqu'on est un espèce d'observatoire de l'état de l'extrême droite dans ce pays, c'est une extrême droite à 1 ou 2% des voix. Et c'est le fait qu'on la remette en selle, qu'on remette en selle le Front National, cette idéologie raciste qui va permettre de monter. Et il faut se souvenir, on peut s'en souvenir en tant que Marseillais comme un moment très, très douloureux, d'un jour où le Front National organise à Marseille une grande manifestation très très importante, où il fait venir tous ses supporters, tous ses militants de toute la région, du sud de la France au moins, et où Jean-Marie Le Pen s'affiche comme candidat à la mairie de Marseille. Je peux vous dire que moi, en tant que Marseillais à l'époque, on a eu froid dans le dos. D'abord devant la masse de la manifestation, devant le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour s'y opposer, et puis on ne savait pas trop à qui on avait affaire, parce qu'on savait que le Front National, il y avait un certain nombre de citoyens de base mécontents ou un peu racistes, mais qu'il y avait aussi des éléments dangereux, venus de l'OAS, venus des gens qui étaient capables de tuer. Et donc, ce froid dans le dos, je ne l'ai plus, mais je peux vous assurer que je l'ai eu à ce moment-là, en regardant cette manifestation du Front National, cette manifestation de montée en puissance, et l'affirmation de Jean-Marie Le Pen disant « Je suis candidat à la mairie de Marseille », c'était très très inquiétant. Et j'en reviens toujours à cette idée, quand le gouvernement a des difficultés, qu'est-ce qu'on met en avant ? Les questions migratoires. Et du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce gouvernement de la France de Mme Borne ? Mme Borne, elle est un peu embarrassée parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire avec le dossier des retraites et quelques autres. Monsieur le maire, honte sur lui, publie un bouquin autobiographique sordide, je dis le mot, sordide, hein, voilà à quoi jouent les ministres. Bon, et quand il n'y a plus personne pour occuper le terrain et occuper la une des journaux télévisés, qui en sort ? Monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin, c'est un espèce de nouveau Nicolas Sarkozy et qui va déverser sa bile sur les uns, sur les autres, mais faire dans la division, jouer la peur et tout. Donc, en fait, il n'y a plus que pour Darmanin. Pour le reste, l'autre équipe gouvernementale, elle ne sait plus trop ce qu'elle doit faire. Elle patauge. Bon. Alors, M. Darmanin, pour mettre le sujet de l'immigration à nouveau au centre de la question nationale, alors qu'il y a beaucoup d'autres sujets très, très intéressants dont on pourrait parler, qu'est-ce qu'il a inventé ? Alors, il a sorti, c'est l'événement de ces derniers jours, il a sorti la question comorienne. Alors, j'en parle d'autant plus, pas savamment, mais qu'à Marseille, on est particulièrement touché par la question comorienne, puisqu'on sait que Marseille est la plus grande ville comorienne de toute la France. Hein. On compte 100 à 150 000 ressortissants des Comores sur le territoire de la commune de Marseille. Donc ça fait une communauté très très importante, assez soudée, et ça fait partie des données donc, de notre vie quotidienne dans cette bonne ville. Alors qu'est-ce qu'il fait, M. Darmanin ? Alors, il ne s'en prend pas aux Comoriens qui sont ici, mais il a lancé, on en a parlé bien entendu, une opération consistant à dire « dans les Comores, il y a un problème d'immigration illégale ». Alors vous voyez, c'est toujours le même problème qu'on agite. L'immigration, ça fait peur, c'est dangereux, ça divise, on s'engueule entre les racistes et les pas-racistes, etc. Bon, tout ça, ça fait partie de la comédie de la division politique. Hein. Mais il a trouvé un cas tout à fait intéressant, puisqu'en fait, il faut revenir, et c'est l'occasion de le faire, il faut revenir sur ce que c'est l'histoire des Comores. Parce qu'on vous parle, bien sûr, de Mayotte. Département français, merci Nicolas Sarkozy, hein, ouais. Puisque ce n'était pas un département français avant. Donc, département français qui devrait, j'insiste à peine, être traité comme les autres départements français, évidemment, il ne l'est pas. Hein. Alors, on leur a fait croire qu'ils étaient des citoyens comme les autres. Ben, en fait, il n'y a qu'à voir le niveau de l'enseignement, les écoles, le personnel administratif, le taux de chômage qui est autour de 40%, etc., etc. Là, Mayotte n'est pas un département comme les autres. D'une part, parce qu'il est loin, mais parce que de toute façon, sociologiquement, ethniquement, il n'est pas un département français. Bon, donc le fait d'avoir, merci entre guillemets, M. Nicolas Sarkozy, adjoint de cette île à la République française, c'est un épouvantable gâchis. Bon. Et on continue à en avoir les effets, et M. Darmanin patauge au milieu de ce gâchis, puisqu'il occupe l'opinion et il se fait mousser sur cette question-là. Alors il faut revenir un peu en arrière. Parce qu'on va dire, voilà, ce que monsieur... Alors, je reprends la position de Darmanin. Il y a sur l'île de Mayotte des gens qui ne sont pas des Mahorais. Mahorais, c'est le nom des habitants de Mayotte. Bon, alors, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais il faut expliquer l'histoire qu'il y a avant. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, qui a été créée en partie pour ça, mais pas que pour ça, pour régler les comptes avec les anciennes puissances nazies et fascistes. Hein, on se souvient que c'est un des buts de l'ONU dans la charte telle qu'elle a été rédigée et telle qu'elle est toujours en vigueur. Hein, la lutte contre le nazisme, il fait partie de la charte de l'ONU. On ne le rappelle pas assez souvent. Bon. L'ONU décide de dire qu'il faut désormais, et ça fait partie d'un mouvement de fond dans la population mondiale, il faut décoloniser, c'est-à-dire donner leur indépendance à des pays qui ont été colonisés. Alors certains vont le prendre très très vite, On a parlé de l'Indonésie, la Chine un peu plus tard, etc. Et puis, il y en a d'autres qui vont se retrouver là, ben, de fait, quasi indépendants d'une puissance coloniale qui ne s'était pas beaucoup intéressée à eux. C'est le cas des Comores. J'insiste sur les Comores. Car l'archipel des Comores, ce n'est pas simplement l'île de Mayotte. L'archipel des Comores, c'est quatre îles. Donc la Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte, tout ça fait l'archipel des Comores. L'archipel des Comores, ça existe bien, et le fait qu'il y ait un royaume des Comores de l'archipel, c'est bien, bien antérieur même à la République française. Oui. Bon, ça a une vraie existence, c'est-à-dire que quand l'ONU dit les Comores font partie des territoires à décoloniser, ils ne parlent pas en l'air. Ce statut n'a pas été accordé à tout le monde, on en a parlé, il a été accordé à la Nouvelle-Calédonie, la même chose. Donc il y a une antériorité historique, il y a une particularité, une spécificité ethnique, linguistique et tout particulière aux Comores, et c'est ça que l'ONU défend. Et elle le défend depuis toujours. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la République française a triché avec les règles de l'ONU, qui ne s'est pas fait respecter. Dans ce cas-là, il faut le dire, l'ONU s'est laissé marcher sur les pieds. Ce n'est pas le seul cas. Je pense au Sahara occidental, je pense à d'autres situations. Mais si on en vient au droit international, l'archipel des Comores est un État indépendant reconnu par l'ONU.
Comores.
Voilà, ça, voilà. C'est très important de le rappeler. Voilà. Bon, alors cet archipel des Comores, et donc ça a été reconnu, alors il y a toute une série de textes.
C'est mot arabe, Qamar, c'est la lune.
Voilà, exactement.
Je crois qu'on voit la lune de ces îles assez importante. Voilà. Par rapport... C'est pour ça qu'on les appelle les îles de Comores.
Exactement. Alors, il y a toute une série. Alors, il y a autant de résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qu'on en veut sur la question de l'indépendance des Comores, oui. Mayotte compris. Hein. La première déclaration, la résolution est de, je crois, du 21 octobre 1976. La dernière est du 28 novembre 1994. L'ONU n'a jamais bougé dans sa position de fond sur l'existence d'un archipel unifié avec un régime unique sur l'ensemble des quatre îles.
Bon. Il y a beaucoup de petits exemples comme ça.
Voilà, voilà. Bon, alors, ce qu'on peut déplorer, je le déplore, c'est qu'effectivement, l'ONU n'ait pas pu se faire respecter. Ce n'est pas le seul cas. Je rappelle, c'est le cas le pire, que dans le cas de l'embargo contre Cuba, on a 62 résolutions contre l'embargo, et là, l'embargo n'est pas levé. Hein. Donc, on a une vraie faiblesse de l'ONU telle qu'elle est organisée, c'est-à-dire que, il est écrit dans la charte que le secrétaire général et le Conseil de sécurité s'efforcent de mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée générale, mais ça s'efforce, c'est, ça veut dire une décision de l'Assemblée générale n'a pas force de loi. C'est une indication de politique, c'est au secrétaire général et au Conseil de sécurité d'aller plus loin. Bon, en fait, on s'aperçoit que le secrétaire général n'a pas assez de pouvoir et qu'en plus, il est bridé par un Conseil de sécurité bien particulier sur lequel je vais revenir tout à l'heure dans un autre morceau de l'émission. Bon. Donc on en est là, au point de vue du droit, l'archipel des Comores est un archipel reconnu par l'ONU et qui a vocation à être indépendant. Seulement, ça ne convenait pas à la République française. Alors pourquoi ça ne lui convenait pas ? Parce que la République française, jusqu'à aujourd'hui, et pas plus Macron que Hollande, que Sarkozy n'ont changé de politique à cet égard, voire même ils l'ont empiré, puisque Sarkozy a été jusqu'au bout du néocolonialisme en transformant donc Mayotte en département de la République. Donc personne...
Est-ce que c'est stratégique, Mayotte ?
Alors c'est pas vrai, c'est pas stratégique en termes militaires. Ce qu'il y a derrière cette ambition de la classe dirigeante française, c'est que chaque île donne droit à la souveraineté sur l'eau qui est autour de l'île. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, c'est important à la fois pour la Réunion, c'est à la fois important pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour la Guyane, c'est important pour le Tahiti, c'est important pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait rêver et ce qui est dramatique pour la France, parce qu'on n'explique pas ça aux citoyens français, ce qui fait rêver, c'est que la France est le deuxième empire maritime du monde en surface d'eau contrôlée depuis nos petites îles. Bon. Alors le premier, c'est les États-Unis. Il y a très très peu d'écart en nombre de 1000 carrés marins. Il y a beaucoup d'écart. On peut dire qu'on est les meilleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire d'arriver sur le podium en disant « je suis la deuxième puissance maritime mondiale » C'est complètement stupide et ça fait délirer, en fait. Puisque, en fait, c'est la République de l'eau. c'est la République qui fait eau, c'est la République qui règne sur les poissons, c'est la République qui règne sur les baleines. Mais c'est pas très très sérieux tout ça. Alors autant ça a un sens pour dire on protège ses côtes, on évite qu'un ennemi vienne dans vos ports, sur vos côtes et tout, c'est très bien. Mais quand on est à ce niveau-là de délire néocolonialiste et impérialiste, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit et je n'emploierai pas d'autres mots, on est dans une situation grave, c'est-à-dire qu'on a un empire beaucoup trop grand pour ce qu'on est vraiment. Parce que c'est bien joli de contrôler des millions de kilomètres carrés de mer, mais on contrôle comment ? Ah ben il faudrait une flotte alors. Évidemment, pour ce qui est du contrôle maritime, les États-Unis sont un peu plus armés que nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Une dizaine de porte-avions et tout à la même échelle. Bon, un porte-avions, alors nous, Habib me dit on a un porte-avions. Oui, on a un porte-avions. Puis peut-être quand il sera vieux, on en aura un autre, si les crédits sont votés. Mais il faut savoir que ce porte-avions, en gros, il navigue 6 mois de l'année. Et pendant 6 mois, il est en réparation. Donc effectivement, on a un demi-porte-avions opérationnel. Et une petite flotte à proportion de ce demi-porte-avions, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc pour régner sur le deuxième empire maritime mondial, on n'a que du baratin, du verbiage et des espoirs démesurés et non justifiés. Alors, voilà, c'est ça, parce que derrière ça, il y a une petite frégate ici, un petit aviso, un petit patrouilleur par là. Enfin, c'est, voilà, la flotte française en Nouvelle-Calédonie, c'est 2 petits navires. Hein. Mmh. C'est rien du tout. Mais évidemment, la France ne peut pas se payer ça. La France n'a pas le budget militaire des États-Unis, hein, même s'il est gros, ce n'est pas le problème. Bon, donc en fait, on a cette espèce de rêve qui est partagé à peu près dans la totalité des partis politiques français. Il faut savoir, ça m'a toujours choqué, que Mélenchon est un grand défenseur de la France puissance maritime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire de défendre ça ? On défend des mètres carrés, des kilomètres carrés de flotte, de zones de pêche, de ci, de ça et tout. Bon, comme si d'autres pays avaient besoin.
Voilà. Certainement les Américains derrière qui nous...
Voilà, ils se disent oui, voilà, vaut mieux que ce soit eux qui contrôlent que d'autres. Mais évidemment, bon, ça c'est tout à fait clair. Bon. Voilà ce qu'il y a derrière cet empire maritime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport aux Comores ? Alors, plutôt que d'accepter que cet archipel fût indépendant et donc que la France perdit donc ses kilomètres carrés d'eau salée autour de cet archipel, il a été décidé d'organiser une sécession. Parce que c'est rien d'autre que ça. Alors ça s'est fait, alors je ne rentre pas dans tous les détails, c'est une aventure qui a pris une trentaine d'années avec l'intervention de mercenaires, coups tordus, enfin, c'est une longue, longue histoire, hein, l'histoire des Comores. Mais le point d'arrivée, ça a été effectivement le fait que le seul référendum qui a fini par être organisé pour passer donc l'archipel des Comores à l'indépendance, a été truqué par la République française. C'est-à-dire que pour l'ONU, il était parfaitement clair, et c'est en droit, c'est parfaitement clair, que c'était la totalité de la population des quatre îles qui votait pour ou contre l'indépendance ou leur attachement à la République française. Bon. L'affaire était tout à fait claire. En additionnant les voix obtenues sur les quatre îles, l'indépendance était acquise. Mais c'est vrai aussi, il est vrai que si on comptait séparément les voix dans les différentes îles, à Mayotte, il y avait moins de voix proportionnellement pour l'indépendance que dans les autres. Mais c'était quand même à 60% pour l'indépendance, 70%. Les autres, c'était à 90%. Bon. Utilisant le fait que Mayotte était plus facile, j'allais dire, à manipuler, pour toute une série de raisons liées aux élites locales, aux interventions souterraines de puissances françaises. Bon, je ne rentre pas dans les détails qui sont connus dans le milieu comorien. Et pour des raisons d'intérêt aussi, parce que ceux qui ont servi, les Mahorais qui ont servi à maintenir Mayotte dans la République française, y ont trouvé leur intérêt personnel, hein, en termes d'argent, en termes de position de pouvoir, etc. Bon, donc, appelons ça... Très clairement, pour ce que c'est, la République française a réussi à acheter une partie de la classe dirigeante mahoraise pour garder. Et donc, Mayotte est restée à la suite. Donc, la France a décidé que le résultat du référendum se découpait en deux. Les trois îles des Comores restaient toutes indépendantes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'archipel, le royaume islamique des Comores. Et puis, Mayotte devenait français. Alors, Mayotte devenait français d'abord en tant que territoire d'outre-mer. Et le clou sur le cercueil de l'indépendance mahoraise a été mis par Nicolas Sarkozy. pas. C'est le même Nicolas Sarkozy. C'est pas la seule vilenie qu'il ait commise, parce qu'il a aussi commis une autre vilenie consistant à, pour le compte des États-Unis d'Amérique, à détruire la Libye, à détruire la Libye, à détruire l'armée libyenne, à faire en sorte que le chef de l'État libyen soit assassiné. Tout ça, c'est du Sarkozy. Et il a aussi, dernier mérite, enfin je mets un grand guillemet et puis je fais un clin d'œil à Habib, dernier mérite, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a commencé l'opération de destruction de la Syrie. Ouais. Il a raté, tant mieux. Mais voilà, le bilan Sarkozy est catastrophique. C'est un bilan...
Tout le monde a raté. Hein.
Voilà, hyper colonialiste, méprisant pour tout. Mais en fait, c'est un bilan d'impérialisme secondaire, puisqu'au fond, à quoi a servi Sarkozy? D'autres disent de quoi Sarkozy est-il le nom? Non, à quoi a servi Sarkozy? Eh bien, à permettre à faire avancer la politique des États-Unis que les États-Unis soient considérés comme responsables. Voilà. Qui s'est sali les mains? C'est la République française.
Il n'est pas le seul, hein, voilà. Les autres aussi. Voilà.
Qui s'est sali les mains en Syrie? C'est la République française. Ah. Et qui s'est sali les mains à Mayotte, c'est la République française. Et pour ça, les États-Unis sont très, très contents. Ils supervisent de derrière. En plus, Obama l'a théorisé. Il a dit, il n'a pas dit « je tire les ficelles » parce que ça aurait été trop explicite. Mais il a dit « je surveille ça de haut et ils font le boulot hein. ». Nous sommes, l'impérialisme français est un sous-traitant de l'impérialisme états-unien. Voilà, hein, voilà. C'est tout à fait clair. Et on y met beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et on y suscite beaucoup de haine dans toutes les populations dont nous contribuons à faire le malheur.
Pratiquement les Européens.
Voilà. Et les Européens laissent faire, surtout. Ouais. Voilà, les Européens laissent faire, bien sûr. Ouais. Le seul cas où on a été un peu réticent, c'est sur le dépeçage de la Yougoslavie, parce que l'affaire, en fait, n'était pas menée par la France, elle était menée par l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne qui, là, a servi d'agent de la politique des États-Unis plus que la France. Mais dans tous les autres cas, effectivement, la France a été l'agent d'une politique impérialiste états-unienne pour défendre des intérêts partis. Parce que les intérêts de la France pour Mayotte, à part l'empire maritime, sont très très faibles. Alors, elle y met un peu plus d'argent. Alors, on dit qu'effectivement, les trois autres îles, l'archipel des Comores est plus pauvre, c'est vrai. Mais quand je vous donne les résultats, donc la catastrophe au niveau de l'habitat, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, le seul hôpital en bon état dans l'archipel des Comores, c'est un hôpital qui a été payé par les Chinois dans une des trois îles. Ouais. C'est tout.
Parce que la plupart, je crois, des malades dans les îles Comores, ils allaient à Mayotte.
Oui, bien sûr.
Pour se faire soigner, voilà, surtout alors, les femmes pour
accoucher. Oui, tout à fait.
Des trucs.
Alors, ce qui se passe aujourd'hui sur la situation mahoraise, c'est qu'on est dans une situation démographique très, très particulière et que Darmanin essaye de cacher. C'est-à-dire que les Mahorais, ceux qui sont là et qui, effectivement, la carte d'identité de la République française et tout, chaque fois qu'ils peuvent s'en aller de Mayotte, ils s'en vont.
Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il y a de... J'allais te dire, il y a pas mal des gens
bien
de
sûr.
Mayotte. Hein,
mais oui, mais bien sûr. Mais ils s'en vont parce qu'effectivement, ça a beau être la République là-bas, c'est pas tout à fait la même République et on n'y vit pas aussi bien. Hein. Enfin, on n'a pas les mêmes services publics, c'est pas comparable. Donc, quand ils peuvent s'en aller, ils s'en vont. Et à la place, et c'est pour ça qu'on a une espèce de situation démographique étrange où la population de Mayotte ne bouge pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y en a autant de Mahorais qui partent vers la métropole qu'il y a de gens des trois autres îles qui viennent à Mayotte en disant « c'est un tout petit peu mieux que chez nous
ouais, ». Ouais, c'est
voilà.
Vrai,
et
c'est
puis avec l'espoir qu'une fois qu'ils ont un pied à Mayotte, peut-être le prochain avion les emmènera en métropole, parce qu'il y a des problèmes d'état civil, il y a des tas de problèmes comme ça. Bon, on peut passer à travers les mailles du filet. Alors, ce que Darmanin est en train de faire, c'est de dire « je vais fermer les mailles du filet ». Vous allez voir, plus personne va passer. Hein. Et donc, je vais commencer par montrer aux habitants des trois autres îles qu'il ne fait pas bon venir à Mayotte, hein, même si c'est pour loger dans des conditions misérables, dans du carton et de la tôle ondulée. Parce que c'est ça que Darmanin va faire. Le représentant de la République française va détruire des bidonvilles en échange de rien du tout parce qu'il n'y a pas d'autre logement que ça. Hein. Ça veut dire, ça, le message est pour les habitants d'Anjouan, de Moëlly, de la Grande Comore, si vous venez, vous serez dans la misère et on vous accueillera à coups de matraque. Oh. Bon, voilà. Donc la République française est vraiment très, 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 très peu présentable dans cette opération. Mais je voulais rappeler qu'en droit international, la République française a violé les résolutions de l'ONU, a violé toute la politique de l'ONU qui, malheureusement, ce n'est pas le seul cas, a eu tendance à se laisser faire. Bon. l'affaire n'est pas à jouer, parce que de toute façon, d'une part, cette mesure, donc les mesures qui prennent, ça se sait, l'agitation de Darmanin sur ces migrants sur l'archipel des Comores, ça se sait, ça passe pas très bien, parce que en fait, on voit bien de qui à qui on a affaire, on a une espèce de petit Sarkozy bis, hein, avec le même genre d'attitude, même discours, etc.
Est-ce que tu connais son vrai nom, prénom ?
À Darmanin ?
Ouais.
Non,
tu... Moussa.
Ah oui, parce que oui, sa maman était d'origine immigrée. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Donc rien à attendre, mais je vous dis, prenez ça pour ce que c'est-à-dire un moment de passage à vide de l'équipe Macron, qui est peut-être le passage à vide définitif. Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à dire, mon analyse, c'est que l'après Macron, il est commencé là sous nos yeux. Est-ce qu'il va tenter un dernier rétablissement avec l'aide de je ne sais pas qui, de je ne sais pas comment, j'en sais rien. Hein, mais là, on est carrément dans une perspective de l'anti-Macron, au point, je le disais là avant l'émission, que les agences de notation boursière sont en train de baisser la note de la France. Ah ouais. Alors baisser la note, ça a des incidences. Ça veut dire que quand la France devra emprunter, elle est obligée d'emprunter puisqu'elle est très endettée, il faut qu'elle rembourse. Donc elle emprunte pour rembourser. Et quand une agence de notation, il s'agit de Fitch, qui est une des trois grandes agences de notation, diminue la note de la France, ça veut dire que les conditions du prêt sont moins favorables. Ouais. L'emprunt coûte plus cher. Hein. Donc la dette va coûter plus cher, alors que les caisses ne sont pas très très pleines. Et que les caisses ne sont pas pleines parce qu'il y a 100 milliards d'euros de fraude fiscale, enfin, tout ça est connu. Hein. Alors je reviens aussi sur mon propos en disant quand est-ce qu'on remet ces questions de l'immigration sur le tapis pour cacher le reste. C'est-à-dire pour cacher 100 milliards de fraude fiscale, on va mettre le doigt, on va montrer du doigt, on va stigmatiser, paraît-il, le million de personnes qui trichent avec la sécurité sociale pour le remboursement d'un paquet de Doliprane. C'est ça la gesticulation raciste.
Et les banques, certaines banques, ils ont...
Ils n'ont
pas fait des déclarations pour les impôts, tout ça.
Bien sûr. Des banques françaises ouais. entre guillemets, qui ont des bilans extraordinaires, mais qui ne payent pas d'impôts sur le territoire national ou très, très peu. Bon, tout ça est connu. Mais là, bien entendu, c'est toujours moins facile de s'en prendre au capital, au grand capital, que de s'en prendre peut-être au fraudeur qui a fait une fausse carte vitale, etc. Mais on est en plein dans l'expression d'une crise profonde de l'équipe dirigeante française qui est en train de s'agiter dans tous les sens pour chercher à détourner l'attention sur ses lacunes, sur ses faiblesses et sur ses politiques non progressistes, ses politiques réactionnaires, et qui remet toujours le même sujet sur le tapis. Qui est-ce qui fraude à la sécurité sociale? Qui est-ce qui rentre sur le territoire sans avoir un droit, etc. C'est toujours les mêmes. On connaît ça. On est dans cette période-là qui est une période difficile. Mais je voulais insister là-dessus pour bien expliquer qu'il faut que nous, vous les auditeurs, nous autour de ce micro, nous dans cette radio, nous soyons bien conscients qu'il s'agit de disperser l'attention, de détourner l'attention, de faire d'un sujet qui est secondaire un sujet important et central. Voilà la conclusion qu'il faut en tirer. Et pour faire une petite pause musicale, je vais demander à Louise de nous passer une petite musique. Alors, vous savez qu'est décédé la semaine dernière un chanteur états-unien qui s'appelait Harry Belafonte et qui était donc d'origine, lui, était né à New York, en fait, tout simplement, mais d'origine jamaïcaine, et qui a été... Alors, c'était un parcours un peu particulier, mais il a toujours été du côté des antiracistes, du côté des Noirs opprimés, qu'ils soient caribéens ou d'autres origines. Mais en même temps, il n'a pas été militant, il n'a pas été au Black Panther, mais il a eu une position pendant les 84 ans de sa longue vie. Il a toujours une position très, très correcte sur tous les problèmes de racisme aux États-Unis, il a toujours pris parti, il a toujours défendu avec son art à lui, la chanson, il a toujours défendu la cause des victimes du racisme. Donc, hommage à Harry Belafonte qui nous a quittés donc la semaine dernière.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun,
ill to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. O island in the sun, built to me by my father's hand, my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Belafonte qui chantait la Jamaïque de ses parents. Ouais. Je rappelle que l'archipel des Caraïbes, dans sa totalité, a été peuplé d'esclaves africains parce que la population autochtone était morte. Là, les Indiens, les Indiens caribéens n'ont pas à supporter l'esclavagisme et la colonisation. Et donc, il a fallu les remplacer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a donc, toutes ces colonies peuplées de descendants.
Moi, je pense que le plus grand génocide au monde, c'est les Africains, les Nord-Africains.
Ah oui, ben là, c'est par dizaines de millions.
De millions. De millions. Et qui sont morts dans les cales de bateaux, jetés à la mer. Et, vraiment,
et maltraités ensuite. Voilà.
Et on en parle guère.
Alors, on en parle guère. Mais ce qui explique donc qu'il y ait cette population d'origine africaine dans ces îles-là, alors qu'elle n'était pas d'origine locale, caribéenne. Voilà, pour faire une petite transition, alors j'allais venir sur un anniversaire, parce qu'on est aujourd'hui le 2 mai, et le 2 mai 2014, pardon, il s'est passé un événement épouvantable, dont on parle fort peu sous nos cieux, qui est le massacre de la Bourse du Travail d'Odessa. Alors, je situe Odessa, donc cette grande ville d'Ukraine, sur les bords de la mer Noire, un grand port, une ville qui est jumelée avec la ville de Marseille, et puis qui, historiquement, est très, très célèbre pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne vais pas me présenter. Qu'est-ce qui se passe le 2 mai 2014 ? Alors, on est donc 3 mois, en gros, ou 4 mois après le coup d'État de Maïdan, qui a mis donc au pouvoir une équipe donc sélectionnée par les États-Unis, financée par les États-Unis, qui a décidé d'en finir avec la dissidence, enfin, ou au moins les régions de l'Ukraine qui ne sont pas favorables à un régime occidental et surtout pas aux participants d'origine de type fasciste qui sont soutenus par l'Occident. Et il y en a évidemment à Odessa, comme il y en a dans le Donetsk, dans l'ensemble du Donbass et dans pas mal d'autres régions. ce jour-là, donc, sous le camouflage d'un groupe de supporters pour un match de football, puisque c'est ça qui avait été utilisé comme masque, il arrive donc devant la bourse du travail d'Odessa, où il y avait donc du personnel, une série de gens décidés à en découdre, c'est-à-dire à liquider des gens considérés comme pro-russes, pas favorables au coup d'État de Maïdan, qui étaient favorables au parti des régions qui étaient en pouvoir jusque à la révolution colorée de février 2014. Et il ne s'agit pas simplement de leur dire « partez, on les chasse de la bourse du travail ». Il s'agit d'éliminer un à un l'ensemble des personnes qui travaillaient dans la bourse du travail d'Odessa, par n'importe quel moyen. En plus, pour finir, ils y mettront le feu. Mais donc, j'ose pas. Les photos sont là, les témoignages sont là et tout. On a même eu l'occasion de recevoir à Marseille, après ça, les familles d'un certain nombre de ces assassinés par les fascistes ukrainiens. Je veux pas trop rentrer dans les détails. Le plus horrible qui a été dit, je le dis, c'est une des personnes qui a sucré un secrétariat dans cette bourse du travail, qui était enceinte, qui a été étranglée sur son bureau avec un fil de téléphone. Bon, ça vous donne... Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails. Ça vous donne l'idée, l'attitude des gens qui sont venus là pour détruire ce qui s'était... Une fois que le feu a été mis à la bourse du travail, il y a des gens qui étaient au deux ou troisième étage qui ont essayé de sauter. Ceux qui sont arrivés en bas vivants, on les a achevés à coups de matraque ou à coups de barre de fer. Mais c'est épouvantable. C'est un crime fasciste délibéré, reconnu, organisé, préparé. Et il fallait qu'il n'y ait aucun survivant. Bon, ouais. C'est ça l'idée. Bon, on a affaire à un crime nazi, fasciste, caractérisé. Pour rien, hein, pour des gens... Ouais. Ils n'avaient rien commis, ils faisaient leur travail à la bourse du travail. Mais ils étaient considérés comme pro-russes et ne respectant pas le nouveau régime mis en place par les États-Unis. Bon. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut s'en souvenir parce que ça a été très largement occulté dans les médias occidentaux. Et je suis parti, j'ai décidé d'y revenir parce qu'il est parti aujourd'hui dans un quotidien italien en ligne, un article disant que des dirigeants de confédération syndicale italienne étaient allés hier à Odessa, donc pour le 1er mai, et n'avaient pas fait mention du massacre fasciste. Alors, ça m'amène à dire deux mots sur ces confédérations syndicales italiennes. Il y en a trois. La CGIL qui fut un temps proche du Parti communiste, l'UIL qui fut un temps proche du Parti socialiste italien, et la CISL, la CISL, qui fut un temps proche de la démocratie chrétienne. Pour un militant syndical italien, un vrai, il y en a encore aujourd'hui dans les usines italiennes et dans les ports et dans les transports, ce sont des dirigeants totalement vendus au patronat italien et au gouvernement italien. Bon. Donc il n'y a rien à en attendre, mais là, ils se sont montrés pire qu'ils ne sont, c'est-à-dire qu'ils sont allés sur les lieux d'un massacre fasciste et ils sont allés dire qu'il fallait donner... ils sont allés soutenir l'Ukraine. Donc ils sont allés soutenir les auteurs du massacre. On est dans l'horreur. Alors, je pense qu'en Italie, ça passera très mal, mais je voulais signaler ça parce que, heureusement, on peut se satisfaire quand même d'un certain nombre de comparaisons, les organisations syndicales françaises, et elles l'ont montré dans le travail qu'elles ont fait sur la question des retraites, ne sont pas dans cet état-là. En Italie, c'est un état catastrophique. Il n'y a plus rien. Hein. Vous adhérez à un syndicat, vous adhérez au syndicat, c'est le syndicat du patron. Hein. Alors, il y a là une espèce de bureaucratie qui est payée par le patronat, qui est là pour signer des accords dont l'écriture a été faite par le patron. Voilà, bon, c'est ça. Alors, il y a des cas ici ou là, on en connaît, mais heureusement, nos confédérations syndicales ont évité ça, et je souhaite qu'elles l'évitent le plus longtemps possible, même si, à l'occasion, elles sont travaillées au corps, et il y a des entreprises où on sait que le travail d'un patron qui est face à une équipe syndicale forte, c'est d'essayer de l'affaiblir. C'est tout à fait clair. Bon, et donc, on va trouver une faiblesse chez l'un, une faiblesse chez l'autre, un type qui est endetté, toutes les considérations sont bonnes. Une DRH, je parle d'expérience pour l'avoir vécu, une DRH qui a face à elle une équipe syndicale solide va chercher à la diviser. ils vont chercher. Alors, ça peut être une facilité. On embauche le fils, on embauche la femme, on fait une faveur dans la promotion, on fait monter chef d'équipe quelqu'un qui pourrait ne pas l'être, etc. Enfin, y a une infinité de moyens, puisque quand vous avez le pouvoir, vous avez l'argent de l'entreprise et vous pouvez tenter votre chance de toutes les façons possibles. Diviser une équipe syndicale solide, c'est un travail, j'allais dire. Le premier DRH venu doit savoir faire ça. C'est le métier. C'est le métier. Diviser, affaiblir le syndicat. Alors en Italie, le résultat est grandiose, puisque pratiquement les trois confédérations historiques qui existent toujours sur le papier sont totalement vendues au patronat et au gouvernement. J'insiste pas là-dessus. Mais c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est cet article qui est paru ce matin dans un quotidien italien qui disait « Ils sont même osés faire ça », c'est-à-dire aller devant la Bourse du Travail d'Odessa et ne pas parler de l'assassinat fasciste qui a eu lieu il y a 9 ans maintenant. Bon, j'en parle parce que ça méritait que ce fût dit. Alors j'insiste sur le fait qu'aussi, tout ça est connu et que même l'ONU, l'OSCE, Amnesty International, tout le monde depuis dit « Mais on veut que les coupables soient châtiés ». Alors les coupables sont connus, on a les photos, on a les noms, hein, et le gouvernement ukrainien ne fait rien parce qu'il a besoin de ces personnages-là. Hein. Il faut savoir que le gouverneur d'Odessa, qui est une des brutes fascistes qui travaillent pour le régime, a décidé que du 1er au 5 mai, parce qu'il y avait l'anniversaire du 2 au milieu, il y aurait le couvre-feu à Odessa, parce qu'il avait tellement peur que ça se sache. Hein. Et puis il faut savoir qu'une partie des gens qui ont participé à cet assassinat fasciste sont allés ensuite combattre, et qu'il y en a une partie qui est mort dans les combats de Mariupol. Ouais. Il faut savoir aussi, je finirai là-dessus, que la totalité des hôpitaux d'Odessa, aujourd'hui, sous la direction de ce gouverneur, qui s'appelle lui-même le Gauleiter, ça veut dire « chef » en allemand, hein, ont été transformés au bunker. Hein, il n'y a plus de table d'opération. Il y a des fusils mitrailleurs à toutes les fenêtres. Hein. Et comme ça, on dira, si jamais l'armée russe le faisait, l'armée russe a bombardé un hôpital. Hein. C'est ça le jeu. Bon, voilà l'état où est Odessa. Donc c'est la pire région pour vivre en ce moment en Ukraine. Il y en a d'autres, c'est pas très bien, mais là c'est la pire. Toute personne exprimant des craintes, des critiques sur la politique de Zelensky est banni. Toute personne qui essaye de passer à l'Est, c'est-à-dire qui essaye de rejoindre le Donbass, est passée par les armes. Voilà ce que c'est que la démocratie à l'ukrainienne dont on nous rebat les oreilles. Et M. Marchenko est un des pires dans le genre. Bon. Je voulais le dire à cette occasion. Bien. Mais tout ça ne fait pas des choses très très gaies. Alors, on va passer à des choses plus intéressantes pour l'avenir des affaires du monde, appelons ça d'un bien grand mot. Vous savez peut-être, ça a été dit, que M. Sergueï Lavrov, qui est donc le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, occupe depuis quelques jours le poste de président du Conseil de sécurité. Vous savez qu'il y a une présidence tournante, c'est une présidence mensuelle, ça ne dure pas très longtemps, mais le président du Conseil de sécurité, a un certain nombre, c'est lui qui organise le travail. Et son arrivée, alors c'est un tour de rôle, il n'a rien fait pour arriver à ce poste-là, mais a été particulièrement bien choisi, puisque le thème de travail du Conseil de sécurité pendant le temps où Sergueï Lavrov est président du Conseil de sécurité est le suivant, je vous lis l'ordre du jour, « Maintien de la paix et de la sécurité internationale, un multilatéralisme efficace reposant sur la défense des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ». Cet ordre du jour a été adopté. Alors, vous imaginez qu'il était très content de se retrouver avec pareil ordre du jour. Et donc, il s'est fendu d'un discours introductif donc de sa prise de la présidence, qui est très, très ramassé, qui dure sur une vidéo, je l'ai regardé en détail, il dure 24 minutes, mais où il parle très, très vite, il dit tout ce qu'il a à dire en 24 minutes, et le discours est disponible en français. Vous pouvez le lire sur Internet sans problème. Il est sur des sites, un site qui s'appelle Le Cri des Peuples en particulier, mais il vient de la source du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Bon. Ce qui se passe, donc, c'est que M. Lavrov en a profité pour dire ben voilà ce que c'est que le monde multipolaire et voilà ce dont il faut que nous sortions. Qu'est-ce qu'il faut ? De quoi faut-il sortir ? Mais il faut sortir d'un système où, en fait, la charte de l'ONU n'est pas respectée tout le temps.
C'est vrai.
Alors, il dit à propos du secrétaire général, il dit, je sais bien qu'il fait des efforts, il est très gentil avec M. Guterres, il fait des efforts, mais quelquefois, on lui casse la baraque, il n'arrive pas à faire tout ce qu'il veut. Il dit qu'un certain nombre de structures de l'ONU ont été totalement privatisées, et il cite en particulier l'Organisation pour le contrôle des armes chimiques. Il dit, là, on a affaire à une structure qui est une structure de l'ONU et qui, en fait, ne répond pas aux objectifs de l'ONU, triche, ment, ne fait pas son travail. On l'a vu à propos de la Syrie à plusieurs reprises, puisque les enquêteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui étaient venus en Syrie ont constaté qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'utilisation d'armes chimiques, mais que la direction de la dite organisation OIAC a refusé de publier leur rapport. Bon, ouais, donc, et donc, M. Lavrov est très très clair, il s'agit d'une structure qui est d'une structure de l'ONU sur le papier et qui, en fait, privatisée, a été prise en charge par des gens qui ne sont pas de l'ONU ou qui ne respectent pas les règlements de l'ONU. Ça, c'est un cas parmi d'autres sur lequel il s'appuie pour montrer son raisonnement. Et puis, il dit, donc, la Charte des Nations Unies, c'est une charte à l'origine qui a été rédigée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et il rappelle qu'en particulier, dans un certain nombre d'articles de la dite charte, il est prévu que les puissances qui ont vaincu, qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, donc l'URSS, puis la France, l'Angleterre et les États-Unis, ont le droit de poursuivre toute activité de type nazi. Ça, c'est écrit dans la charte. Alors ça, on ne le dit pas, c'est pas bien de le dire, c'est pas bien, mais c'est écrit. Et il le rappelle. Il rappelle un certain nombre d'autres principes, en particulier le fait que, du point de vue de la Charte des Nations Unies, toutes les nations membres de l'ONU, il y en a beaucoup plus qu'à l'origine. À l'origine, il y avait, je crois, 54 membres à l'ONU à la création. Maintenant, il y en a pratiquement 200. Hein. Toutes les nations doivent avoir droit à un égal respect de tous les autres, qu'elles soient petites ou grandes. Et il ajoute que, en fait, et il confirme que, en fait, la communauté internationale, ou ce qui est présenté dans nos émissions de radio et de télévision comme la communauté internationale, n'est jamais que l'expression d'un clan, le clan à la solde des États-Unis. Tout ça, c'est bien d'être rappelé, parce que le clan à la solde des États-Unis, c'est pas beaucoup de monde et pas beaucoup de pays. Alors, il parle du milliard doré. Il dit, sur les 8 milliards d'habitants de la planète, il y en a un milliard qui vit. Alors, je ne dis pas qu'il y a un milliard de riches, il y a un milliard qui vit dans des pays riches. Hein. C'est le cas de la France. Bon. Ah ouais. Ça ne veut pas dire que tous les Français font partie du milliard, loin s'en faut. Mais ce qu'il dit, c'est vrai comparé au reste. Et ce qu'il est en train de défendre dans sa prise de parole, donc très officielle, en tant que président du Conseil de sécurité, c'est de dire, mais les 7 milliards d'autres, ils existent. La communauté internationale, c'est tout le monde. C'est les 8 milliards dans leur totalité. Ce n'est pas le milliard qui fait beaucoup de bruit, qui fait parler de lui, et qui, en fait, ne respecte pas la souveraineté des uns et des autres. Et alors, dans son discours, lui qui est très très ramassé, parce qu'en 24 minutes, il a dit énormément de choses, c'est-à-dire, regardez ce que cette soi-disant communauté internationale fait quand elle viole le statut et la charte des Nations Unies. Exemple, l'Irak. Ouais. Exemple, la Libye. Exemple, la Yougoslavie. Enfin, tout ça. Et alors, il additionne, il dit, mais le nombre de morts est considérable. Hein, et on n'arrête pas.
La Yougoslavie.
Ben oui. Bon, donc, il fait... Alors, tout ce qu'il dit, si vous voulez, nous, en tant que militants anti-impérialistes que nous sommes, on le sait depuis le début, on le suit, hélas, au jour le jour, mais il fait une espèce de bilan récapitulatif des années qui ont suivi la création de l'ONU et la rédaction de la charte. Il dit, on n'est pas là, et puis il y a un certain nombre de pays qui ont, comme il dit, en partie privatisé l'ONU, qui l'ont tétanisé et qui ont fait croire que l'ONU ne servait que la voie du milliard doré. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Il a dit, maintenant, il faut que ça change. L'intérêt, c'est que ça change parce que, au fond, et c'est ce qui s'est passé par rapport aux expressions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le conflit en Ukraine, c'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de pays qui disent « mais je ne suis pas là pour dire ce que m'a dit de dire le représentant des États-Unis ou le représentant de la France ». Il faut savoir que, par exemple, parlons de la France néocoloniale impérialiste, il faut savoir que les pressions du représentant permanent français à l'ONU sur les diplomates africains, que ce soit des diplomates togolais, béninois ou autres, étaient constantes. C'est-à-dire que le représentant de la France, en cas de vote, par exemple, à l'Assemblée générale sur une résolution quelconque, pouvait aligner une dizaine ou une quinzaine de voix parce qu'il obligeait les les dirigeants et les représentants des anciennes colonies à voter pour la position française. Ils n'étaient pas indépendants du tout. Alors, ça s'est un peu estompé progressivement, mais ça s'estompe dès l'instant où il y a un effet de groupe. Quand vous avez une dizaine de pays anciens colonisés français qui décident de ne pas obéir aux représentants de la France, ils y arrivent. S'il y en a un tout seul qui se manifeste, il lui arrive des ennuis. Parce qu'on va lui dire, on ne te donne pas telle subvention, on ne finance pas ci, on ne finance pas ça. Enfin, les moyens de pression coloniaux et néocoloniaux sont très, très importants. C'est de ça que... Ah, ce n'est pas M. Lavrov qui va sortir l'ONU de tout ça, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul et il y a de plus en plus de pays qui disent il faut sortir de cette forme de travail de l'ONU. Et il ajoute... Il ajoute à propos du Conseil de sécurité. Là, il tape dans le vif. Il regardait le Conseil de sécurité. Il y a 5 permanents au Conseil de sécurité. Oui. Il y en a 3 qui sont dans le même camp.
Oui.
Et le même camp et 2 qui sont en vrai les petits serviteurs du premier. Bon. Il dit en fait, c'est pas du tout ça le monde actuel. Le monde actuel, c'est pas du tout ça. Et il dit très clairement dans son intervention, l'Inde a évidemment sa place au Conseil de sécurité. Le Brésil a évidemment sa place au Conseil de sécurité. Il n'y a pas de doute. Et il dit, il faudra qu'il y ait une représentation africaine au Conseil de sécurité. Ça peut être l'Afrique du Sud, ça peut être un autre. Mais de toute façon, le Conseil de sécurité de l'ONU, enfin les membres permanents, ceux qui pèsent, ceux qui ont le droit de veto, n'est pas du tout représentatif de la société mondiale contemporaine telle qu'elle est. Alors vous voyez qu'il a un gros programme, on s'en doutait, mais il le met sur la table et il dit voilà, on va travailler dans ce sens-là, voilà ce qu'il faut faire. Et là, il est suivi, il ne parle pas dans le vide.
Pour combien de temps ?
Ah, c'est un mois la présidence tournante, oui. Mais après, il y aura le représentant permanent de la Russie. Oui, mais monsieur. Il lance un espèce de chantier. Et il lance un espèce de chantier parce qu'il sait qu'il est suivi, appuyé par toute une série de pays. Ça s'est vu justement par rapport au vote sur la situation ukrainienne. Ça s'est vu aussi parce qu'il s'est constitué, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que c'est intéressant, il s'est constitué un groupe de pays qui disent que l'important à l'ONU, c'est que la charte de l'ONU soit respectée. Alors ça, c'est très, très important. Je m'arrête un petit peu là-dessus. Alors, c'est une coalition donc, de 18 nations qui s'affichent elles-mêmes comme anti-impérialistes, qui a été créée au mois de juillet 2020, je crois, pour la défense de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire, ils ne disent pas qu'ils sont pour un tel ou contre un tel. Ils disent on défend la Charte, on est là dans cette structure qui s'appelle les Nations Unies parce qu'il y a une charte qui nous convient. Il faut qu'elle soit défendue. Ce qui veut dire qu'ils ont l'impression, à juste titre, qu'elle n'est pas toujours bien défendue et qu'elle n'est pas respectée. Et dans cette charte des Nations Unies, qu'est-ce qu'il souligne ? Le droit à l'autodétermination, à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et au respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de toutes les nations. Très, très simple. Alors, qui sont les 18 signataires de ce texte ? Qui est très, très important, c'est la première rupture d'un certain nombre de petits pays qui disent on ne veut pas obéir à l'Occident parce qu'il dit qu'il est le plus fort et qu'il a la bombe atomique, que si et ça et tout. On ne veut pas le savoir. Je vous les donne dans l'ordre alphabétique. Le premier, c'est l'Algérie. Bon, on comprend, c'est aussi la seule colonie française qui se soit libérée par la voie armée. Hein, puis les autres ne l'ont pas fait. L'Angola, colonie portugaise qui s'est libérée donc, par la voie armée aussi. La Biélorussie. Alors la Biélorussie ne s'est pas libérée si elle s'est libérée de l'occupation fasciste. Ainsi, sur la Biélorussie, il faut savoir qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la Biélorussie est le pays qui a probablement le plus souffert, puisque les armées nazies sont passées une première fois en allant en direction de la Russie dans un sens, une deuxième fois en repartant vers l'Allemagne au moment du début de la défaite. Et il faut savoir qu'un citoyen de Biélorussie sur 3 est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un tiers de la population. Donc ils ont un très très mauvais souvenir du nazisme. Le quatrième est la Bolivie, le cinquième est le Cambodge, le sixième est la Chine, le septième est Cuba, le septième est la République populaire de Corée, démocratie populaire, donc Corée du Nord. Ensuite on a la Guinée équatoriale, l'Érythrée, qui est un petit morceau de l'Éthiopie qui a réussi à se séparer, l'Iran, la République démocratique populaire du Laos, le Nicaragua, l'État de Palestine, car c'est important de le dire, l'État de Palestine existe en droit, puisqu'il préexistait à la création de l'État d'Israël, hein, puisque je rappelle que le mandat britannique était un mandat sur la Palestine, qui était reconnu comme un État. Bon.
Il y avait le découpage de la Palestine, voilà. Une partie voilà. Israël et une autre partie.
Exact. Ensuite, la Russie, Saint-Vincent et les Grenadines, donc une petite île des Caraïbes, la Syrie et le Venezuela. Voilà donc les 18 pays anti-impérialistes qui disent « Nous, on veut que l'ONU défende la charte des Nations Unies et respecte donc le droit à l'autodétermination, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. » Alors, et ils affirment, voilà le texte qui a fait l'objet de leur publication initiale, « Nous réaffirmons notre détermination à tenir la promesse que nous avons faite à nous, peuple des Nations Unies, puisque c'est comme ça que ça commence, à la Charte des États-Unis, ouais. Ainsi que notre engagement à ne laisser personne derrière, tout en soulignant la nécessité d'assurer la prévalence de la légalité sur la force. À cet égard, nous nous engageons à n'épargner aucun effort pour préserver, promouvoir et défendre dans toutes les enceintes pertinentes la prévalence et la validité de la Charte des Nations Unies qui, dans la conjoncture internationale actuelle, revêt une valeur et une pertinence renouvelées et encore plus importantes.
Voilà. Est-ce qu'on peut savoir comment elle est financée et
Comment est financée?
Oui, les Nations Unies.
Ah, l'ONU.
Ah oui, l'ONU.
Alors, par des contributions des États. Alors, tu mets le doigt sur une des difficultés. Tu mets le doigt sur une des difficultés. C'est-à-dire que la règle du jeu était de dire chacun contribue à proportion de son PIB. Ça, c'est un classique. Et donc, de ce fait, à proportion du PIB, les États-Unis, jusqu'à nouvel ordre, avaient une majorité dans le financement.
Oui.
C'était le plus important. Et donc, ils jouaient là-dessus en disant, si vous dites ceci ou si vous faites cela, on sort. Alors, ils ne l'ont pas fait pour l'ONU, ils n'ont pas osé, mais ils l'ont fait pour l'UNESCO, ils l'ont fait pour d'autres structures internationales. Ah. Toujours la chantage à dire, ah ben, je ne mets plus de chèques sur la table.
Voilà, exactement, bon. C'est ce qu'on entendait souvent.
Voilà, c'est ça, c'est un vieux classique, c'est une position, alors, qui ne respecte pas du tout la charte, puisque vous avez payé votre part, vous avez de quoi faire, vous avez même beaucoup d'argent en plus de votre cotisation pour faire la guerre et tuer des gens. Hein, donc, mais ils ont joué là-dessus et il faudrait effectivement qu'ils en sortent. Alors, Lavrov n'a pas abordé la question du siège de l'ONU à New York. Il l'a abordé indirectement en disant « Je viens prendre cette place officielle, cette fonction, mais bref, au Conseil de sécurité. Mais en fait, les journalistes qui m'accompagnaient pour suivre l'événement n'ont pas eu le droit de venir aux États-Unis.
Ouais, ils n'ont pas donné le visa.
Pas de visa. Alors, et il ajoute, alors c'est là que la médiocrité crasse de la diplomatie des États-Unis sort, c'est qu'il a précisé dans son discours-là que, en fait, les visas ont été délivrés par l'ambassade des États-Unis à Moscou au moment où la délégation était déjà dans l'avion sur l'aéroport. Ouais. C'est-à-dire, ils disent « Ah, mais nous, on l'a donné avec un peu de retard. » Oui, vous l'avez fait. Voilà. Non, mais là, il met le doigt. Alors, c'est ridicule, c'est minable.
Ouais,
c'est minable.
C'est
minable. Hein, mais ils en sont là à des expédients de bas niveau, hein, de très, très bas niveau, hein, pour sauver je ne sais pas trop quoi. Bon. Donc, je voulais insister là-dessus. Il y a un point d'appui très fort. Ces 18 États constituent un point d'appui très fort. Il s'est constitué autour d'eux un groupe qu'on appelle le G77, qui est un groupe qui reprend les thèmes de le non-alignement et qui dit effectivement là, un peu la même chose, en se mouillant un petit peu moins que les 18 premiers. Là, il faut que l'ONU soit l'endroit où toutes les nations sont respectées par toutes les autres. C'est ça le fondement.
Il n'y a pas eu un problème aussi sur l'emplacement des Nations Unies?
Si, parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent le fait que ce soit aux États-Unis et que les États-Unis le font. Alors là, on a parlé des journalistes russes qui n'ont pas pu venir, mais c'est classique. Chaque fois que Cuba veut envoyer du personnel, on leur fait des difficultés. Quelquefois, même les ministres cubains ont eu des difficultés. Ils ont eu le visa au dernier moment, on leur a fait des problèmes et tout. Non, il y a une position totalement abusive, c'est-à-dire que pour l'idéal, enfin, que ce soit là ou ailleurs, mais il faudrait que ce soit un territoire qui soit indépendant d'un État, qui soit un territoire de l'ONU.
Oui, indépendant.
Voilà, un endroit où l'ONU serait la maîtresse du jeu. Et là, pas sur le territoire d'un pays qui se veut le maître du monde. Voilà ce que je voulais dire en regardant tranquillement l'heure. Et je vous ferai part la prochaine fois d'un travail qui s'effectue sur Marseille en 1973. Alors, juste deux mots. On parlait racisme tout à l'heure. Marseille a été... peut-être pas une capitale du racisme en France, mais a été marquée pendant l'été 1973, à la suite, je raconte en quelques mots, à la suite donc de l'assassinat d'un conducteur de bus par un déséquilibré, hein, qui sortait, enfin, traitement psychiatrique, cas désespéré, mais on l'avait laissé quand même sortir et tout. Bon, y avait eu une altercation, et le déséquilibré en question avait égorgé, devant le, en ça. Plein bus, avait égorgé le chauffeur de bus. Bon. Et comme ce déséquilibré avait, j'allais dire, le désavantage d'être algérien, ça avait débouché sur une proclamation extraordinaire, parce que le deuxième quotidien local qui s'appelait Le Méridional, sous la plume de son éditorialiste en chef, avait publié un éditorial sanglant, assez de meurtriers algériens, assez de tueurs algériens, assez de syphilitiques algériens, enfin une horreur, un appel au meurtre, mais sur une pleine page de journal. Au nom d'un comité de défense des Marseillais, où il y avait toute l'extrême droite marseillaise qui était derrière. Le résultat, c'est qu'entre le jour de cet assassinat et la fin du mois d'août, il y a eu 17 assassinats racistes individuels non revendiqués. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des gens dans le Vieux-Port, on a retrouvé des gens abattus à coups de hache dans la rue. Hein. Donc 17 attentats, meurtres individuels racistes, simplement parce que la victime était un Algérien ou un Maghrébin d'allure.
Sans compter les ratonnades. Hein.
Voilà. Et là, on a eu affaire donc, à une vague raciste. Marseille a survécu à ce moment-là, mais il était important de rappeler qu'il y a, et il y a encore, et il y a eu assez longtemps dans Marseille, des gens qui étaient capables de se chauffer la tête et de dire... Je vais dire le mot parce qu'il a été utilisé par des... Moi, je m'en fais un. Je sors de là, j'ai bu 3 pastilles de trop, et le premier arabe que je vois, je lui tire dessus. Ça, c'est inacceptable, c'est insupportable. Il ne faut plus que Marseille soit victime de ce type de pratique. On le dira autant de fois que nécessaire à cette antenne. On le dira urbi et orbi. On le dit à tous nos auditeurs. Nous ne sommes pas complices de cette cité-là. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cette cité ne sombre pas entre les mains de pareils personnages. Mais ils existent, nous les connaissons, et il importe de les neutraliser. Merci de votre attention. Merci, Louise. Et on se retrouvera la semaine prochaine.
Merci, Louise.